Maintenant, dans les discours publics, curieusement, on ne parle plus d'espérance. Par exemple, De Gaulle truchait ses discours d'espérance. Le mot espérance, c'est un mot absolument magnifique. Et l'espérance, c'est plus haut que l'espoir. L'espérance en appelle à une dimension supplémentaire. Et cette dimension supplémentaire, c'est ce qui fait notre humanité. C'est la dimension qui donne à l'être humain toute son envergure et son accomplissement.
Podcast by Tendance Ouest.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Des bouquins dans les poches sur Tendance Ouest. La semaine dernière, nous évoquions la guerre en cours au Sahel avec le lieutenant de vaisseau dans les commandos marines Louis Saillant. Cette semaine, nous portons notre regard vers une autre guerre, plus ancienne, mais qui a durablement marqué l'histoire du monde. Nous nous engageons sur les traces des résistants chrétiens durant la guerre 39-45 avec un essai sous forme d'enquête très documentée. L'espérance est un risque à courir de Jérôme Cordelier. C'est un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Calmann-Lévy. Jérôme Cordelier, bonjour.
Oui, bonjour.
Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le rédacteur en chef du service France du magazine d'actualité hebdomadaire Le Point. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Et pour ce livre, vous êtes parti à la rencontre des chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, qui ont résisté à Hitler durant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi vous avez choisi d'enquêter précisément sur ce sujet-là ?
Parce que c'est un pan oublié de notre histoire. C'est-à-dire qu'on a glorifié évidemment beaucoup la résistance, on a énormément parlé de la résistance communiste et bien peu de la résistance chrétienne. On a oublié à notre époque, alors je sais que la mode est à la cancel culture, au déboulonnage de statues, et donc dans ce contexte-là, mais bien avant même, on a oublié que parmi les premiers à défier les nazis, il y avait les communistes, mais il y avait aussi les chrétiens. Et donc j'ai voulu essayer de remettre un peu de lumière sur cette histoire oubliée. Alors, vous savez, bon, pendant la guerre, on a beaucoup souligné une réalité, qui est une réalité que je n'occulte pas, au contraire, j'ai beaucoup enquêté dessus, qui est la compromission des sommets de l'Église de France avec des cardinaux et des évêques, donc avec le maréchal Pétain et le régime de Vichy. C'est une réalité, c'est vrai, j'ai enquêté, beaucoup d'évêques et de cardinaux ont glorifié Philippe Pétain, il y avait une espèce d'instrumentalisation mutuelle entre l'Église de France et le régime de Vichy, l'Église de France voulait essayer d'utiliser Vichy pour la restauration morale, et le régime de Vichy utilisait l'Église pour essayer de s'adjoindre les consciences françaises.
Et puis l'Église avait aussi peur du communisme venu du RSS.
Exactement, il y avait un bras de fer politico-diplomatique qui explique en partie d'ailleurs les silences du pape Pie XII, dont on a beaucoup parlé au Vatican, même si l'affaire est beaucoup plus complexe qu'elle a été donnée à voir à certains moments, notamment par le cinéaste Costa Gavras dans son film Amen. Mais il y a eu quand même une compromission de la hiérarchie de l'Église avec Pétain et le régime de Vichy. Et en même temps, il y a une autre réalité dont on parle peu, mais qui est aussi une grande réalité, c'est que des dizaines, des centaines, même des milliers de prêtres, de religieux, de fidèles de base se sont engagés contre le nazisme.
Et vous en parlez très bien.
1940.
Oui, et vous en parlez très bien avec beaucoup de talent dans votre livre sur des destins absolument magnifiques. On verra tout à l'heure d'ailleurs si ces destins peuvent être des témoins aujourd'hui. Mais précisément sur cette compromission de certains chefs de l'Église de France, pourquoi, d'après vous, 77 ans après, pourquoi l'histoire a plutôt retenu cette compromission plutôt que les actes héroïques dont vous parlez, de nombreux prêtres, pasteurs, religieux et simples croyants d'ailleurs. Pourquoi finalement on a une mémoire sélective ?
Alors je pense que d'abord il y a un fait, c'est que cette compromission a été très mise en avant par l'Église à l'époque. Il a fallu quand même attendre 1997 et la repentance des évêques de France pour que l'Église fasse amende honorable sur ce passé. C'est une tâche sur le passé de l'Église, il faut le dire avec force. Mais pendant 40, beaucoup d'évêques ont fait des déclarations publiques pour glorifier Pétain, on faisait même des prières dans les églises pour à la gloire de Philippe Pétain, donc qui était beaucoup moins catholique que le général de Gaulle ou ou le maréchal Leclerc, mais ça c'est une autre histoire. Et puis il y a aussi le fait que actuellement, la France a quand même un petit problème avec son passé religieux, c'est-à-dire que dans tous les débats sur la laïcité, on nommait une partie de notre histoire et de notre patrimoine français, qui est notamment le fait que nous sommes un pays aux racines chrétiennes. Donc ça a quand même joué, ça a pesé dans la balance, évidemment. Et ensuite, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est non seulement m'attacher aux prêtres de base, aux religieux, qui se sont engagés, un peu le bas clergé qui a rejoint le maquis et ce très tôt, mais aussi aux obscurs, parce que on connaît les icônes, on connaît Edmond Michelet, on connaît Tom Morel, on connaît Honoré d'Estienne-d'Orve. Moi, j'ai essayé de mettre en avant un peu ceux dont on ne parle pas, parce que la plupart du temps, ils ont agi dans le secret, dans la discrétion. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'ils étaient aussi nombreux, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'en trouvais un en révélait un autre, qui en révélait un autre. Vous voyez, il y a une espèce de chaîne qui se mettait en place comme ça. Et je pense donc, au même titre que Hannah Arendt a parlé de la banalité du mal à propos de Eichmann à Jérusalem, je pense qu'il y avait aussi, pendant cette période, une banalité du bien, c'est-à-dire une chaîne d'humanité qui s'est mise en place pour lutter contre les obscurantismes que représentait alors qu'incarnait alors le nazisme, cette industrie de déshumanisation totale et de mort. Les chrétiens ont lutté contre ça. Et puis ensuite, pour porter la flamme haute de l'espérance. Et je pense que cette flamme, on en a besoin à notre époque.
Et ce sont des héros très discrets, vous le montrez à plusieurs reprises dans votre livre. Aujourd'hui encore, il est difficile de les faire parler, ces héros-là. Alors, il y a une chose que vous montrez très bien aussi, je trouve, dans l'espérance, c'est un risque à courir, c'est ce conflit intérieur d'un certain nombre de chrétiens, au début de la guerre en tout cas, partagé entre l'obéissance et puis une situation sur le terrain qui est contraire aux valeurs qu'ils portent, et ils s'en aperçoivent vite. Vous écrivez « C'est une erreur de notre époque amnésique et confuse, une de plus, que de croire que l'histoire s'écrit en noir et blanc. » Est-ce que finalement, c'est pas ça le point de départ de notre amnésie sélective, que de penser qu'il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre, et que tout est aussi simple que ça ?
Exactement. Vous avez parfaitement raison de souligner ce point, parce que, par exemple, à partir de 1942, la plupart des évêques et des cardinaux qui sont pétainistes et qui le restent, en même temps, couvrent et même organisent des filières de protection et de sauvetage des juifs persécutés. C'est le cas du cardinal Gerlier, qu'on connaît très bien à Lyon, mais c'est aussi le cas, par exemple, de Monseigneur Raymond à Nice. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé la trace de Monseigneur Raymond à Nice, à Yad Vashem à Jérusalem, parce qu'il a été fait juste parmi les nations. Mais Monseigneur Raymond, il est juste à Yad Vashem, mais il était aussi celui qui avait un portrait du maréchal Pétain dans son bureau. Donc c'est là où on voit toute l'ambiguïté de l'époque. Mais ce qui est très important, et c'est un peu les leçons qu'on peut tirer aussi d'aujourd'hui, c'est la discrétion. C'est le secret dans lequel ces gens agissent. Et même encore, la plupart du temps, par exemple, j'ai rencontré cette...
Oui, ils ne racontaient pas leur histoire sur Instagram, et on en est très loin.
Ouais. Voilà. Par exemple, Odile de Vasselot, qui est une survivante, qui est une grande résistante que j'ai pu rencontrer, quand on lui parle de ça, elle dit il fallait bien que je fasse quelque chose. On était occupés par une barbarie qui était contraire à nos valeurs, il fallait que je fasse quelque chose contre ça. Donc c'est la discrétion. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces gens, ils sont en rupture totale avec à la fois, pour les prêtres et les religieux, mais aussi pour les chrétiens. À l'époque, la société française est très catholique, donc l'Église domine les consciences. Ils sont en rupture par rapport à la hiérarchie de l'Église, ils sont en rupture par rapport à leur évêque, par exemple, souvent aussi, de temps en temps aussi, par rapport à leur prêtre, mais ils sont en rupture avec leur famille, de temps en temps. Ils sont en rupture avec leur milieu social. Donc, dans un pays qui est très rural, comme la France à l'époque, où il y a beaucoup de villages, vous imaginez le courage inouï qu'il faut pour être dans cette désobéissance face à son milieu, face à ses hiérarchies, face de temps en temps à ses parents dans un petit village, par exemple, c'est quelque chose quand même d'inouï.
Mais alors justement, Jérôme Cordelier, comment vous expliquez cet engagement? Comment vous expliquez cet inouï dont vous parlez à l'instant, parfois jusqu'au sacrifice des chrétiens que vous citez dans votre livre? C'est leur foi qui les a guidés ou pas du tout?
Je pense que la foi, on peut pas dire la foi a été une partie de la motivation. Souvent, il y a, vous savez, la résistance, comme on sait, c'est souvent un engrenage un peu qui se fait de façon pragmatique autour de soi. C'est ce que dit par exemple Magda Trocmé, l'épouse du pasteur Trocmé, qui va recueillir tous ces juifs persécutés au Chambon-sur-Lignon. Bon, ben, elle voit une jeune femme arriver dans sa cuisine un soir. Elle l'accueille, elle peut pas faire autrement que de l'accueillir, et puis après, le lendemain, il y en aura une autre, le surlendemain, il y en a 5 qui arrivent, le sur-surlendemain, il y en a 10, donc on se dit pas, je vais faire le bien, vous voyez, on est face à une situation. Mais je pense, moi, que ces gens ont été quand même éduqués, pétris par une vision du monde. Et cette vision du monde, c'est une vision chrétienne. C'est-à-dire, le christianisme, c'est quand même, on tend la main à l'autre et on tend la main aux persécutés. Et c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre que des évêques et des cardinaux se soient autant compromis avec Vichy et même certains avec l'Allemagne hitlérienne, parce qu'ils étaient complètement à rebours de ce que devrait être un engagement guidé par les évangiles.
Podcast by Tendance Ouest.
Il y a une chose qui m'a beaucoup plu dans votre ouvrage, parmi d'autres, Jérôme Cordelier, c'est la diversité des figures, des portraits que vous dressez, parce que vous les citiez tout à l'heure, on a un chapitre sur De Gaulle, on a un chapitre sur le maréchal Leclerc, et puis on survole le destin d'anonymes, d'épouses, de prêtres, comme une sorte de chaîne incroyable. Qu'est-ce qui, d'après vous, unit cette diversité de profils?
Alors je pense que c'est des gens d'abord qui sont en opposition, qui disent, selon le mot de Paul Petit, qui était ce diplomate qui a été exécuté parce qu'il avait pris justement la résistance, il était rentré en résistance, qu'il faut plutôt désobéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et là, il visait le cardinal archevêque de Paris, Suard, qui était très compromis avec l'occupant. Et donc, je pense qu'il y a quand même une chaîne comme ça, qui est une chaîne qui est liée par la foi, par l'humanisme, et puis par par le fait qu'on est confronté à la barbarie, et face à cette barbarie, il faut agir. Alors, il y a aussi un élément, et d'ailleurs c'est ce que m'a raconté Madame de Vasselot, qui est l'élément patriotique, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui se tisse entre la défense de la patrie, la défense de la liberté et l'éducation dans la foi. Et donc ce sont des deux choses qui se lient. Et donc, par exemple, Madame de Vasselot, elle dit pas « j'ai agi parce que j'étais chrétienne », elle dit « j'ai d'abord agi parce que je voulais défendre mon pays et je voulais défendre ma patrie ». Et il se trouve que cet amour de la patrie, on le retrouve chez De Gaulle, on le retrouve chez le maréchal Leclerc, cette défense de la patrie passe par une foi chevillée au corps et au cœur.
Vous nommez, vous racontez très précisément, alors là, à la manière d'un journaliste, hein, l'attitude et les actions de dizaines de résistants dans votre livre, et vous écrivez ceci: chaque histoire est un destin, chaque engagement un exemple, chaque visage une leçon. C'est cela que vous souhaitez transmettre avec un livre comme celui-ci?
Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment un livre vivant, c'est-à-dire que Alors j'ai fait un livre de grande documentation, j'ai vraiment fouillé beaucoup dans les archives, d'abord pour avoir un socle historique qui soit retenu et qui ne donne pas prise à des gens qui pourraient contester l'histoire. J'ai beaucoup travaillé le fond, mais j'ai aussi voulu montrer comment ce passé était encore présent parmi nous, et d'abord parce qu'il y a des survivants, donc je me suis efforcé à rencontrer des survivants qui sont essentiellement des survivantes maintenant. Ça c'est un autre aspect aussi que j'aborde dans un chapitre, c'est qu'on a oublié aussi la guerre des femmes. Les femmes ont été très importantes dans la résistance, ce qu'on n'a pas dit pendant longtemps. Mais je voulais surtout marier la grande histoire et aussi les petites histoires. Donc la grande histoire documentée, archivée, presque figée, et les petites histoires du quotidien, les engagements comme ça, les témoignages très concrets dans la vie quotidienne, pour montrer comment ces engagements se faisaient un peu au coin de la rue, si on peut dire, au coin de chez soi. C'est-à-dire que ce ne sont pas des grands mots MOTS qui sont à l'œuvre, ce sont des grands mots MAUX qui sont à l'œuvre, mais ce ne sont pas forcément des grands mots qui font qu'on va lutter contre cela. Ce sont souvent des engagements, et j'insiste beaucoup sur ce fait, parce que je trouve que, et vous avez eu raison de noter sur le fait qu'on est dans une époque où on s'exhibe beaucoup sur des réseaux sociaux, par exemple, et là, ce sont des gens qui, par la force des choses, évidemment, mais ont agi dans la discrétion, le silence. Et donc ça, et même encore, et donc il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus qui, en fait, sont de véritables héros. Et ce que je voulais, c'était aussi rendre grâce à des héros, parce qu'on est à une époque où on déboulonne les statues, et je trouve que c'est quand même pas mal d'élever des statues. Ce sont des exemples. Les générations futures ont besoin, comme ça, d'exemples de gens qui sont des héros ou des héroïnes, et qui souvent ne le disent pas, ne le mettent pas en avant.
Souvent, vous employez le terme de résistance spirituelle. C'est quoi la résistance spirituelle, Jérôme Cordelier ?
Alors, le terme de la résistance spirituelle a été forgé autour des cahiers du témoignage chrétien, donc de la ville de Lyon, qui est un peu la capitale de la résistance spirituelle. Là, la résistance, c'est opposer les armes de l'esprit, comme on disait, face à la barbarie nazie. Donc c'est, suivant le mot de Pierre Chaillet, qui est le fondateur du témoignage chrétien, c'est opposer la croix du Christ, en l'occurrence pour les chrétiens, à la croix gammée. Donc c'est ça la résistance spirituelle, c'est la résistance de l'esprit. Mais c'est une résistance qui touche les chrétiens, les catholiques, les protestants et aussi les orthodoxes, parce que je n'oublie pas dans ce livre aussi, même s'ils étaient peu nombreux à l'époque, mais les orthodoxes qui se sont engagés, qui étaient souvent des Russes réfugiés en France, et donc qui se sont engagés pour défendre la patrie française. Ça, c'est important à dire aussi. Mais il y a aussi une résistance juive très importante, par exemple, et donc qui agit aussi, on peut l'associer à cette résistance spirituelle. C'est une résistance de l'esprit qui est une résistance qui ne se prolonge pas forcément dans le fracas des armes, mais qui s'incarne dans dans une résistance par des textes, par des mots, par des paroles. Le bon exemple là-dessus, c'est la Rose Blanche, ces étudiants chrétiens allemands qui sont parmi les premiers à s'engager contre les nazis en Allemagne, contre Hitler, qui écrivent des textes absolument sublimes, j'en publie quelques-uns, très très puissants contre Hitler, et d'ailleurs, malheureusement, ils seront tous les trois exécutés. Ils n'ont fait qu'une chose, c'est porter la plume contre Hitler, ils n'ont pas tiré un coup de feu, ces gens, ils ont été exécutés.
Podcast by Tendance Ouest.
Vous écrivez, Jérôme Cordelier, et c'est très fort, je trouve, que l'Église de France doit son salut aux résistants chrétiens, et que, je cite, « sans eux, elle aurait sombré sous le poids des fautes de ses chefs ». C'est pas rien que d'écrire ça.
Ben bien sûr, puisque il y a des textes qui restent, il y a des rencontres qui restent entre les prélats et ces autorités d'occupation. Et donc ça a marqué. Les silences de Pie XII ont marqué l'Église aussi. Mais malheureusement, on ne met que ça en avant. Alors que l'Église est beaucoup plus vaste que ça. L'Église, c'est aussi fait de fidèles, de croyants. C'est pas uniquement la faute des prélats. Mais s'il n'y avait pas eu les engagements, les actions de ce bas clergé et de ce peuple de Dieu, si on peut dire, ce petit peuple de Dieu souvent, eh bien, on ne s'en serait tenu qu'à la faute des prélats. Elle aurait pu sombrer. Mais on peut quand même s'étonner qu'il ait fallu attendre autant de temps. Donc 1997 pour la repentance des évêques de France, et aussi le premier pape à se rendre à Yad Vashem, qui est donc la colline des justes à Jérusalem, ce fut Jean-Paul II, et ce fut en 2000 seulement, en l'an 2000. Donc ça aussi c'est une interrogation qui est liée, je pense, aussi à l'histoire de l'Église et au contexte très particulier. Donc j'ai voulu enquêter sur cette face sombre de l'Église, mais aussi je ne voudrais pas que cette face sombre occulte la face lumineuse, importante, de l'autre Église, si on peut dire, c'est celle de ces chrétiens engagés.
En quoi ces témoins, dont vous racontez le destin avec beaucoup de talent, peuvent nous dire quelque chose aujourd'hui en 2021? Parce qu'on sent dans votre écriture que vous avez envie que ça parle aux hommes, aux femmes que nous sommes aujourd'hui en 2021 et que ça ne soit pas simplement un livre d'histoire.
Oui, je veux pas faire de... Il faut se méfier des anachronismes et des analogies un petit peu rapides. Mais juste, je trouve que à l'époque, on met pas en avant trop de héros positifs. On met en avant des idoles, des petites idoles, souvent dans les médias, enfin dans les... On met en avant des gens qui font des exploits sportifs, ou c'est très bien de faire des exploits sportifs. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que chez ces hommes et ces femmes, dans la discrétion, il y a une dimension supplémentaire, il y a une autre dimension. Et c'est pour ça que j'ai voulu donner ce titre, emprunter une phrase de Georges Bernanos, pour donner ce titre à ce livre, qui s'appelle « L'espérance est un risque à courir », parce que maintenant, dans les discours publics, curieusement, on ne parle plus d'espérance. À une époque, par exemple, De Gaulle truffait ses discours d'espérance. Le mot « espérance », c'est un mot absolument magnifique. Et l'espérance, c'est plus haut que l'espoir. C'est-à-dire que l'espoir est un beau mot, mais l'espérance en appelle à une dimension supplémentaire. Et cette dimension supplémentaire, c'est ce qui fait notre humanité. C'est la dimension qui donne à l'être humain toute son envergure et tout son accomplissement. Et donc, je pense que dans ces destins, il y a quelques leçons à tirer et surtout... ils peuvent un peu éclairer notre époque fortement tourmentée, chahutée, et qui est aussi, à bien des égards, une époque d'obscurantisme au pluriel.
Vous précisiez à l'instant que votre titre « L'espérance est un risque à courir », qui est magnifique, était emprunté à Bernanos. Et précisément, il m'est difficile de terminer cet échange sans parler de votre postface et de Georges Bernanos avec ce texte incroyable prononcé devant des étudiants brésiliens en décembre 1944. Je lis juste les quelques lignes de fin de ce texte. « Le grand malheur de cette société moderne, sa malédiction, c'est qu'elle s'organise visiblement pour se passer d'espérance comme d'amour. » Elle s'imagine y suppléer par la technique, elle attend que ses économistes et ses législateurs lui apportent la double formule d'une justice sans amour et d'une sécurité sans espérance. Donc c'est prononcé le 22 décembre 1944, on a l'impression que c'est écrit la semaine dernière, Jérôme Cordelier.
Exactement. Et même je pense que ça pourrait être écrit demain encore, et donc c'est ça qui est superbe, ça veut dire que quand même... Dans l'histoire de l'humanité, dans l'humanité, dans notre humanité, il y a beaucoup de tendances lourdes, si on peut dire, à la fois dans le mal, il y a beaucoup de forces obscures, mais il y a aussi des tendances lourdes dans le bien, dans les forces positives, dans les forces constructives. Et moi, je pense, et les actions et les témoignages de ces hommes et de ces femmes le prouvent, c'est qu'on peut être dans l'action, on peut faire le bien sans en faire une montagne, si je puis dire, sans sans montrer qu'on fait le bien, et puis surtout montrer qu'il peut y avoir une noblesse de l'action positive. On n'est pas forcément dans quelque chose de cucu la praline ou de béni oui oui. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de qui peut être mal ressenti comme à notre époque. Notre époque, on regarde toujours des actions de ce style avec suspicion. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui compte ? C'est pas tellement les mots, ce sont ce qu'on fait chacun autour de nous. Et donc ça, ces hommes et ces femmes montrent, ils montrent qu'on peut faire quelque chose de constructif, de positif et de bien autour de nous, et sans forcément le dire.
Merci infiniment, Jérôme Cordelier. L'espérance est un risque à courir sur les traces des résistants chrétiens 1939-1945. C'est chez Kalman Levy et c'est disponible depuis quelques jours. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Podcast by Tendance Ouest.
Podcast by Tendance Ouest.